Commune de Paris au jour le jour, 1871, 19 mars 28 mai, par Élie Reclus, le frère de Élisée Reclus, géographe et anarchiste bien connu. Nous lisons un extrait des pages 379 à la page 382. Du samedi 27 mai 1871 au dimanche soir 28 mai, la fin de la semaine sanglante, les dernières heures de la Commune de Paris. Samedi 27 mai. D'instant en instant, nous entendons dans les gares de Lyon et d'Orléans, dans les chantiers, quelques roulements de feu, de peloton, une douzaine, deux douzaines de coups environ, ce sont les prisonniers qu'on fusille, les hommes que l'on a ramassés dans les caves et greniers, et que trois pioupions et leur caporal ont cru suspects, des passants dont la physionomie déplaît aux policiers, et mouchards qui pullulent dans nos rues, revolvers à la ceinture, casse-tête à la poche, brassards tricolores à la manche d'habit, amis de l'ordre qui ont trouvé le moyen de ne pas servir la commune en se réfugiant dans leur loge de concierge ou autres réduits. Ils se vengent des gardes nationaux du désordre qui ont été au feu et ont payé de leur personne, dénoncent les anciens soldats qui ont la maladresse de se laisser rencontrer en pantalon garance ou en casquette militaire, par conséquent coupables de trahison ou tout au moins de désertion en face de l'ennemi. Fusillés, fusillés. De derrière nos rideaux, nous en voyons passer de ces malheureux désarmés, bourgeois ou ouvriers en civil ou avec quelques pièces d'uniforme. Ils marchent droit d'un pas ferme et fier, mais la figure pâle. Dans une heure, ils seront morts. La Bastille prise, les quartiers populaires du Temple, de Saint-Antoine, de Belleville et du Père-Lachaise restent à forcer. Sous le ciel lourd de pluie, les bouffées de vent apportent les hurlements de la mitrailleuse. Les boulets piochent dans la barricade avec un bruit de grêle. Là-bas, les combattants sont tués dans l'ardeur et l'excitation de la lutte. Ils ne sont pas assassinés comme ici. Les gens du quartier commencent à sortir. Ils vont prendre connaissance de ce qui se passe au dehors. Ils reviennent avec des récits épouvantables. La berge du fleuve est parsemée de cadavres, les rues aussi. Dans certaines cours, des corps morts sont amoncelés. On emporte les carcasses par charretées pour les enfouir dans des fosses profondes qu'on recouvre de chaux vives. Ailleurs, on les asperge de pétrole, puis on les brûle. On a vu un convoi de 10 à 12 omnibus remplis de débris humains. Un ami qui nous apporte des renseignements nous montre les semelles de ses bottines imprégnées de sang. Des deux côtés de la Seine, un filet rouge coule le long des berges. En plusieurs endroits, il y a des tas d'armes brisées, de fourniments, de képis, de vareuses, d'effets déchirés, de papier et de registres brûlés ou fumant encore. Dimanche 28 mai, tout ce matin, on a entendu le canon tonner, on l'entend encore. C'est que tout n'est pas fini. Le cimetière du Père-Lachaise, entouré d'une haute muraille dominant Paris, avec sa multiplicité de tombes et de chapelles, est le dernier point dans lequel tient l'insurrection. L'insurrection, c'est le mot officiel, le mot de la déroute, et que nous disons nous-mêmes sans y prendre garde. Tout vaincu est fatalement un insurgé. On nous raconte qu'au boulevard du Prince-Eugène, de la place du Château d'Eau à la Bastille, le massacre a été effroyable. Après avoir pris la caserne, les soldats jetaient par les fenêtres les gardes nationaux morts ou mourants. Les mairies sont encombrées de cadavres, ils gisent par toutes les rues, l'air en est empuanté. Déjà, l'on voit des chiens courir avec des quartiers d'hommes à leurs crocs. On remarque parmi les cadavres la prédominance des vieillards. Ce sont les fidèles de 1848, ceux qui ont résisté à l'influence énervante de l'Empire et qui lui ont survécu. L'âge légal pour faire partie de la garde nationale est de 20 à 40 ans. Mais la plupart des bataillons de marche ont constaté que l'élite de la troupe se composait des volontaires au-dessus et au-dessous de cet âge. Fréquemment, on voyait dans les compagnies un homme marchant entre son père et son fils. Les plus ardents, les plus endurants, ne manquait presque jamais d'être le grand-père et le petit-fils. Cela nous est d'un bon augure pour la révolution qui suivra, car on y pense déjà. 28 mai au soir, cerné, attaqué de tous les côtés, le cimetière du Père-Lachaise a été envahi par les troupes rurales. Les derniers défenseurs de la commune ont été massacrés. Probablement une période historique vient de clore. Une nouvelle commence. C'en est fini pour notre génération, destinée sans doute à être la spectatrice impuissante, la victime lamentable d'une réaction niaise et furieuse. Pauvre France, si tu es réellement condamnée à mort, tu n'as jamais été plus en danger. après Sedan, que tu es bas tombé par la capitulation Favre Trochu. Et maintenant, où vas-tu tomber ? Les meilleurs de tes fils, les plus braves, les plus intelligents, l'espoir de leur race ne sont plus. Les oisifs et les exploiteurs coalisés ont tué les travailleurs. Quelle va être la ruine ? Après la corruption bonapartiste est venue la lâcheté vis-à-vis des Prussiens. Après la lâcheté viennent les terribles cruautés contre les révolutionnaires. Que s'en suivra-t-il ? Oh, quelles sont lugubres les visions qui se déroulent à nos yeux. Mais advienne que voudra, nous ne cédons pas. Nous sommes mortels, mais notre cause est immortelle. Si nous ne triomphons pas, nos fils remporteront la victoire, et si nos fils échouent encore, nos petits-fils réussiront. La civilisation périra plutôt que notre idéal social. Le vieux monde est établi sur les privilèges de l'oisiveté. Le monde nouveau s'établit et s'établira sur les droits du travail. Jadis, le travail était esclave, il devint serf, il est toujours exploité, il sera libre et attrayant, n'en déplaise aux bombardeurs et égorgeurs. Et quand même la France périrait, sa gloire serait d'avoir péri pour l'idée sociale la plus haute, la plus compréhensive, la plus féconde qu'ait formulée la société humaine. Et quand même il couperait le tronc de ce bel arbre fruitier qu'on appelle la France, eh bien, de ses fortes racines souterraines, pousseraient des rejetons nouveaux. Nous sommes fils de notre terre, et ils n'emporteront ni notre ciel, ni notre soleil. »